Le monde est schizophrène. J'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt quand j'étais jeune fille. J'aurais gagné un temps précieux. Le monde dans lequel nous vivons est schizophrène et je pèse mes mots. Il a aussi la mémoire courte. C'est le fléau de notre époque, la mémoire, celle qu'on doit entretenir, mais qui fout le camp dès que ça nous arrange. Tenez, chaque année sort le classement des personnalités préférées des Français. Un sondage de plus à qui on peut faire dire beaucoup de choses. Je me lance. Ces figures françaises sont majoritairement des hommes et ils nous viennent du monde de la culture. Les trois premiers de ce classement, Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Danny Boone. Trois enfants de l'immigration. Trois histoires différentes qui sont toutes une des pièces du puzzle de notre nation. Personne ici pourtant pour leur demander de rentrer chez eux, pour les accuser de profiter du pays ou de dire qu'à cause d'eux, notre civilisation est en danger. Et quand je me promène chez mon disquaire dans le rayon variété française, la schizophrénie est à son comble. Les plus grandes voix de la chanson française sont, de génération en génération, celles d'hommes et de femmes venus d'ailleurs. Il suffit de se pencher sur la scène française de l'après-guerre. Dans les années 40, Reggiani, Brassens, Brel, Léo Ferré, Yves Montand, Mouloudji, Jean Ferrat, Aznavour, Moustaki... Dites donc, pas un Français de souche. J'égrène ces noms avec délectation, l'entendez-vous, camarades? Je pourrais continuer. Sur leurs traces, Serge Gainsbourg, Nougaro, Sylvie Vartan, Dalida, Michel Polnareff, Alain Bachung ou Louis Chédid. Et le point commun de beaucoup d'entre eux, je vous le donne en mille, c'est un homme, un jeune homme juif d'origine bulgare, Jacques Canetti, un révélateur d'artistes qui a bien plus œuvré pour la France et son rayonnement dans le monde que les pseudo-penseurs de pacotille ne le feront en s'unissant sur plusieurs générations.
France Inter, le Mac de l'été, Leïla Kaddour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été sur France Inter, votre rendez-vous culture du lundi au vendredi. On finit la semaine en beauté. Mon invité aujourd'hui est la mémoire vivante de ce patrimoine exceptionnel constitué par Jacques Canetti. Bonjour Françoise Canetti.
Bonjour Leïla.
Comment allez-vous?
Oh, je vais bien, je suis à votre micro donc tout va bien.
Alors comment présenter brièvement votre père dont je viens de parler à nos auditeurs? Je sais que c'est un exercice difficile, c'est une mise en bouche, un exercice de concision. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'essentiel à retenir?
On pourrait dire que c'est un homme qui vient de Bulgarie, comme vous l'avez dit. Il a quelque chose de particulier, c'est qu'il parle et il écrit quatre langues. Il a quasiment quatre langues maternelles.
Quel était son métier? On l'a connu pour quoi, Jacques Canetti?
En fait, il a trois métiers. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait dire à Boris Vian, tiens, Jacques Canetti ne dort donc jamais. Il dirige une maison de disques qui s'appelle Polydor, qui va devenir ensuite Philips. Mm-hmm.
Une grande maison,
l'ancêtre d'Universal. Il dirige la nuit, le soir, un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre des Trois Baudets, qu'il crée au pied de Montmartre, dans lequel va émerger tout un courant de chansons françaises. Et puis, il a toute une organisation de tournées dans tous les pays où il va faire connaître cette chanson française à travers des tournées, de grandes tournées.
On va découvrir un peu plus dans cette émission la vie de Jacques Canetti, la vie passionnante. Mais pour mieux vous connaître, vous, Françoise, je vais vous soumettre à un questionnaire.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
Françoise Canetti, la dernière fois qu'une chanson vous a fait pleurer.
La dernière fois qu'une chanson m'a fait pleurer, c'est une chanson de Arthur Ashe. Mm-hmm. La boxeuse, c'est une chanson qu'il a écrite pour sa mère et j'ai trouvé cette chanson absolument magnifique.
La dernière fois, Françoise Canetti, que vous avez assisté à un concert qui vous a plu, ému, touché?
Je ne m'en souviens pas. Oui, je m'en souviens bien sûr. C'est le concert de Debout sur le Zinc.
Mm-hmm. C'est un groupe dont on va parler au cours de cette émission qui a repris les textes de Boris Vian, qui les a mis en musique d'une très belle façon. La dernière fois, Françoise Canetti, que vous avez acheté un CD ou un vinyle, quand on est la fille de Jacques Canetti et qu'on a tellement d'albums sous la main, est-ce qu'on en achète encore?
Oui, alors justement, j'ai acheté l'album d'Arthur Ashe.
L'album d'Arthur Ashe. Vous êtes une inconditionnelle, c'est une déclaration d'amour que vous
lui faites.
Excusez-moi,
non mais attends.
Mais non,
mais c'est vrai.
Vous excusez pas, on s'excuse pas d'aimer.
Non, on s'excuse pas d'aimer, mais effectivement, j'ai acheté son album et j'ai été séduite par ce qu'il avait fait. Vraiment très très beau travail.
La dernière fois, Françoise Canetti, vous avez chanté?
Je chante tous les jours, je chante en faisant les courses, je chante en faisant le marché, je chante en montant les escaliers de la maison, je chante tout le temps.
Et les gens vous entendent et vous continuez à chanter ?
Ah oui, au contraire, mais en plus ils adorent ça parce qu'ils considèrent que c'est joyeux. Alors je ne sais pas si c'est joyeux, mais moi c'est nécessaire pour moi de chanter.
Et qu'est-ce que vous chantez ?
Des chansons qui me trottent dans la tête.
Des vers musicaux comme ça qui ne vous quittent pas ?
Oui, oui, absolument. Actuellement, c'est une chanson d'une certaine Léopoldine H.H. que j'ai découverte et qui me plaît beaucoup. Et c'est une chanson de Topor. Mm-hmm. Voilà, qu'elle a mise en musique et, c'est Zozo Lala. Alors ça, Zozo Lala. Voilà. Donc ça, je chante ça en ce moment, vraiment.
Dans les courses. La dernière fois que vous avez eu envie d'être une personnalité connue, de devenir le temps d'une journée quelqu'un d'autre, c'est qui et c'était quand ?
C'est quand je vois l'injustice. Quand je vois l'injustice, quand je vois la pauvreté, quand je vois la misère, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir régler ce problème. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que... Je n'ai pas envie d'être connue. C'est pas quelque chose qui m'intéresse.
La célébrité, non. Alors que vous avez grandi, et on va le raconter tout à l'heure, oui. Vous avez vu tous les plus grands de la chanson française quand vous étiez petite fille.
Oui.
Ça ne vous attire pas du tout. Pourquoi ?
Ça ne m'attire pas parce que j'ai vu d'abord la souffrance qu'on a à rester célèbre et la difficulté qu'on a à maintenir sa notoriété, son image, son talent. C'est excessivement difficile, donc je n'ai pas forcément envie d'être connue. Mm-hmm. En revanche, j'ai envie de faire des choses importantes dans ma vie et être important, c'est, comment dirais-je, s'occuper des autres.
Et c'est supérieur à la gloire. Françoise Canetti est notre invitée. Je vous ai rencontré, Françoise, pour dire la vérité, il y a quelques années. Et pour moi, à l'époque, le nom de Canetti me disait, je le confesse, vaguement quelque chose. Et puis, j'ai commencé à m'y intéresser, à creuser. De lecture en lecture, j'étais vraiment sidérée. Votre père, Jacques Canetti, était incontournable sur la scène de la chanson française dès les années 30. On va y revenir dans un instant, mais j'aimerais qu'on parle de ses deux frères, parce que la fratrie est exceptionnelle aussi. Elias et Georges.
Oui. Elias Canetti, écrivain, prix Nobel de littérature, écrivain de langue allemande, qui aujourd'hui a une résonance très particulière, c'est Masse et puissance, mm-hmm. dans lequel il étudie l'identité des peuples et de quelle façon finalement on agite la conscience des peuples. Et puis Georges Canetti...
Georges n'est pas en reste, on a un prix Nobel et Georges...
Et Georges Canetti qui était professeur et médecin à l'Institut Pasteur, à qui l'on doit des recherches fondamentales, notamment les bithérapies et les trithérapies. Il a été un des pionniers d'un mélange assez détonnant, le mélange des antibiotiques. Et il a contribué à créer les bithérapies et les trithérapies adaptées donc à la tuberculose. Et à l'époque, c'était extrêmement important. C'est la tuberculose faisait vraiment des millions de morts.
Donc voilà, deux frères connus, reconnus dans le monde pour leurs travaux. Même chose avec Jacques Canetti. Si on remonte à leur enfance, la famille a quitté Francfort pour fuir la montée du nazisme et est venue s'installer en France. Pourquoi la France ?
Pourquoi la France ? Parce que c'est le summum de la culture, de la liberté. C'est une langue absolument magnifique. Ma grand-mère, qui était une femme remarquable, qui s'appelait Mathilde Arditi, Mathilde Canetti, était une femme d'une intelligence particulière et elle avait de l'ambition pour ses fils. Et elle avait l'ambition
Elle s'est pas loupée.
Non, c'est pas loupée, quoi. Et elle avait vraiment l'ambition de leur donner à chacun un territoire dans lequel ils excelleraient. Et pour elle, réussir sa vie, c'était apporter à son époque quelque chose d'unique.
Alors, et pourquoi Jacques Canetti a choisi le monde de la musique ? Je crois que ça commence avec une histoire de petite annonce.
Alors d'abord parce qu'il était extrêmement doué pour la musique, sa mère l'avait repéré, donc il a fait beaucoup de musique classique quand il était en Allemagne et en Autriche. Et puis ensuite quand il arrive en France, il est admis à HEC et puis il va quitter HEC un an après pour répondre à une annonce où on dit on cherche jeune homme aimant la musique et parlant parfaitement l'allemand. Et c'est la maison de Dix Polydor qui cherche quelqu'un d'un petit peu atypique pour s'occuper de ses étiquettes.
Qui cherche et qui finit par trouver que finalement celui qui va devenir le patron de la maison, c'est quand même une belle histoire, c'est un beau roman d'apprentissage, hein, tout le parcours des Canetti.
Et qui démarre vraiment au bas de l'échelle.
Tout en bas.
Il est vraiment dans les studios en train de remplir des petites étiquettes. Il s'intéresse au jazz, il fait tout le catalogue jazz de Brunschvicg, parce qu'à cette époque, Polydor distribue Brunschvicg, et c'est là qu'il va vraiment découvrir le jazz.
Et là, il fait un coup extraordinaire, parce que il est jeune, il est motivé, il a aussi pas mal d'audace et elle sourit souvent aux audacieux. Son premier gros coup, c'est qu'il va convaincre Marlène Dietrich de chanter en français. Parce qu'il parle parfaitement allemand, il entre en contact avec elle. Il lui promet donc de chanter des textes en français, des textes qui ne sont pas encore écrits d'ailleurs, il y va vraiment au culot. Ça donne par exemple cet extrait de « Assez ».
Lève-toi, va-t'en, pars. Le lit n'est pas trop grand pour moi, qui suis lasse de t'aimer, t'aimer. Oui, tu m'ennuies avec tes grands mots d'adieu, moi. J'ai horreur de tous ces discours, mon vieux. L'homme me dégoûte et je déteste la cour. Rien ne me plaît, rien que l'amour. Pars gentiment sans gémir sur tes malheurs. Pars, tu auras bientôt calmé ta douleur.
Là pour un premier extrait déjà, pour le pédigré Jacques Canetti, on commence très très fort avec Marlène Dietrich. Il va monter très tôt en grade, il va se voir confier un radio-crochet sur une radio privée, Radio Cité. Et c'est là qu'il va détecter ou encourager des artistes qui vont devenir incontournables dans l'histoire de la chanson française. On va avoir notamment Charles Trenet avec cet extrait-ci.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
Et l'autre artiste n'est pas vraiment une débutante, mais Canetti va l'encourager. D'ailleurs, il aura encouragé toute sa carrière bon nombre d'artistes. Que se passe-t-il avec Édith Piaf ?
Mais Édith Piaf, la môme Piaf, c'est pas Édith Piaf à l'époque, c'est la môme Piaf. Elle a été découverte par Le Play, qui est un directeur d'un grand cabaret. Et Marcel Bustin-Blanchet et Jacques Canetti vont voir Édith Piaf et ils sont sidérés par cette extraordinaire voix qui sort du cœur. Et un jour, Le Play est assassiné. On ne sait pas s'il est assassiné ou s'il s'est suicidé. Et on va accuser les mauvais garçons qui entourent Piaf. Et donc, Piaf va être un peu mis à l'index du métier. Et Canetti, au lieu de mettre Piaf à l'index, va lui tendre la main en lui disant « Édith, venez, Radio Cité est ouverte pour vous. »
On vous accueille et ne vous abandonne pas.
Ouais. On ne vous abandonne pas et vous pouvez vous expliquer, vous pouvez chanter chez nous.
Alors je ne sais pas ce qu'aurait aimé entendre aujourd'hui dans la musique française Jacques Canetti, ce qu'il aurait adoré par exemple. Moi je vous propose le son du jour tout de suite sur France Inter, c'est les trois loubards du groupe Voyou.
Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'était lancée. Oh oh. Et pas
paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loupard, j'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ils m'ont pris mes baskets, ma veste, mes cigarettes. Pendant que je restais sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant, me venaient quelques réponses bien senties. Que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas racket un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Si je sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons qui en veulent à mon blouson. Oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loupard, j'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. J'en veux là mes baskets, ma veste et mes cigarettes. Je vais pas rester sur place sans un mot, sans un geste et l'air désabusé. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas racket un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. J'ai sorti les violons. J'avais toutes mes affaires, j'aurais filé ma monnaie.
Mais que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde de la culture ? Eh bien, il suffit de demander le programme. Michel Berger, peut-être le couple le plus mythique de la variété française. Ce soir à 21h05, on allume le poste direction France 3 qui célèbre ce duo avec un documentaire réalisé par Olivier Amiot et Antoine Coursat. Si maman si, il jouait du piano debout, résiste, Diego libre dans sa tête. Évidemment, autant de tubes chantés par elle, écrits par lui. Ce soir, on chante devant sa télé.
Qui veut savoir pourquoi ta magie.
En feu, si vous faites partie de ces Parisiens qui n'ont pas les pieds dans l'eau cet été, rendez-vous dans le 19e arrondissement à la prairie du Cercle du Parc de la Villette pour une installation éphémère. En place ce soir et demain de 22h30 à 1h30 du matin, la compagnie Carabosse y déploie une grande roue aux cabines de feu, une déambulation au milieu des flammes. Ça réchauffe et c'est gratuit.
If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I'm.
des braqueurs espagnols, des combinaisons rouges, des masques de Salvador Dali. Et oui, la Casa de Papel est de retour pour une troisième saison. On ne va pas vous divulgâcher la fin de la saison 2, chers auditeurs, mais on peut vous dire que nos gangsters préférés sont éparpillés aux quatre coins du globe. La série est toujours diffusée sur Netflix dès aujourd'hui.
Leïla Kadour, le Mac de l'été. Sur France Inter.
On est toujours en compagnie de Françoise Canetti dans le Mac de l'été. Convoquer ensemble la mémoire de votre père, Françoise, c'est traverser un demi-siècle de chansons. Et il y a un lieu qui compte beaucoup dans l'histoire de cette chanson française, c'est le Théâtre des Trois Baudets, un laboratoire extraordinaire.
Oui, un laboratoire que mon père a ouvert en 1947. Il a trouvé un vieux dancing délabré. Il cherchait une salle pour pouvoir faire des marées de jeunes chanteurs. Et il trouve ce dancing délabré, il en fait un théâtre. En 1948, cette salle ouvre. C'est une très 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 jolie petite salle, c'est une bonbonnière de 247 places. Et vous avez dans cette salle toute la grande chanson française d'auteur qui va véritablement faire ses débuts, qui va faire ses débuts portée par la confiance de toute une équipe.
Un aperçu.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour.
Je rêve toujours, me tirer, me barrer, me tailler, de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps d'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu où me laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime.
Ça donne un petit peu le vertige, Françoise Canetti. Là, Juliette Gréco, Jacques Brel, Jeanne Moreau, ils sont tous passés de près ou de loin entre les mains de Jacques Canetti. Qu'est-ce qui faisait qu'il s'intéressait à un artiste ?
Un lundi soir par mois, il y avait des auditions au Théâtre des Trois Baudets et mon père écoutait surtout des auteurs-compositeurs-interprètes.
C'est vraiment, les textes, c'est rapport au texte.
C'est-à-dire, il aimait cette alchimie qu'il y a entre une musique et un texte et qui fait qu'il y a une chanson. Et je crois que c'est cette époque porte les auteurs, compositeurs, interprètes. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et ils sont nés de cette époque, de l'après-guerre, de ce creuset de l'après-guerre au Théâtre des Trois Baudets, mais aussi dans des cabarets. Et c'est une culture française spécifique à la France. C'est vraiment les auteurs, compositeurs, interprètes. Et ils s'intéressaient à des gens à chaque fois complètement différent. Brassens, vous avez tout à l'heure passé une chanson de Béart, Brel, Gainsbourg, Francis Lemarque, Henri Salvador. Ils s'intéressaient aux auteurs, compositeurs, interprètes. Chacun avait sa langue, chacun avait son style, chacun avait son univers.
Ça donne tellement envie d'y retourner encore un tout petit peu.
Harry Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants, t'accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Tes gigolos te déshabillent sous le métron de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brun des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. T'es de la croix, des verres d'envers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames sont une raison à ce fond bigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason. Range tes copecs, sinon t'es bon.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais.
Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police. Dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là la une, ah là la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là la l'air, ah là la rien, t'es un gangster à la mie de pain. Faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon.
Écoute-moi, elle n'est plus là. Non.
Ah là la une, ah là la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là la l'air, ah là la rien, t'es un gangster à la mie de pain. Faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon.
Ne pleure pas,
non, ne pleure pas, Françoise. Là encore, on a le vertige. Brassens, Montand, Reggiani, Catherine Sauvage, la sublime. Est-ce qu'il avait un chouchou en particulier parmi les artistes que je viens d'évoquer?
Il n'avait pas de chouchou, mais c'était comment parler des débuts de gens qui sont complètement inconnus, qui sont pour la plupart complètement rejetés par leur époque parce qu'ils font quelque chose de totalement nouveau et de totalement différent. Et mon père, comme un visionnaire, voit ce qui va se passer dans 10 ans. Et il se dit, voilà, ces chansons vont marcher. Ces artistes vont exister. Et il n'a de cesse de leur dire, puisque ça me plaît à moi, un jour ça plaira à d'autres. Et donc il porte ces auteurs, compositeurs, interprètes avec une confiance. Il les fait mûrir tout doucement, comme dans une couveuse. Vous voyez, on prend le temps d'exister, on prend le temps de naître, on prend le temps d'écrire. C'est vraiment ce que fait mon père. Il y a le Théâtre des Trois Baudets, et puis il y a aussi la maison de disques, et puis il y a la tournée.
Ouais.
Et donc, ça permet à tous ces artistes de travailler sans arrêt, et de devenir ce qu'ils vont être.
Et la métaphore de la couveuse tombe à point nommé parce qu'en 54, il voit débarquer pour une audition tous les lundis, comme il faisait, un minot. Il a 14 ans. Il va lui dire « Reviens plus tard, reviens dans une dizaine d'années, je te perds pas de vue ». Et ça aussi, ça va donner un grand nom de la chanson française.
Des difficultés avec ma santé, comme tout le monde. Des petits malheurs, un coup dur par heure, comme chacun. Je me plains pas souvent et je vais de l'avant comme tout le monde. Car j'ai découvert un truc du tonnerre comme pas un. Dès que j'ai mis mon pyjama de finette, toute la nuit c'est le cinéma, ma tête s'envole.
Jacques Higelin, Je rêve, qui reprend des textes inédits à l'époque de Boris Vian. Jacques Higelin, ce gamin à qui on dit de revenir plus tard, qui continue, qui s'accroche, qui va donner un duo aussi exceptionnel avec Brigitte Fontaine, c'est La Grippe. Moi, j'ai découvert ça vraiment en fouillant la vie de Canetti. C'est-à-dire que vraiment, il est là à chaque fois, au début de tous les artistes qui vont vraiment se réaliser.
Mais oui, c'est avec Jacques Higelin, c'est quand même étonnant parce que Jacques Higelin participe en 1954, il a 14 ans. Et ses parents l'amènent au Théâtre des Trois-Baudets. Et Jacques Higelin arrive et il chante, devinez quoi, Charles Trenet. Déjà, il chante Charles Trenet. Et il chante aussi une chanson de Maurice Chevalier. Et mon père est absolument stupéfait devant l'énergie, devant la créativité, devant l'extraordinaire talent de ce garçon. Mais il a 14 ans, il n'est pas question de faire travailler un jeune à 14 ans, parce qu'à l'époque, à 14 ans, on était encore un enfant.
On est un minot, ouais.
On est un petit minot, comme vous avez dit. Et il lui dit, écoutez, on va se revoir dans 10 ans. Et 10 ans après, il se revoit. C'est incroyable. Et en 1964, il fait le premier disque de Jacques Higelin. Jacques Higelin chante Boris Vian.
Eh ben, ça tombe bien parce qu'il est venu le temps de rembobiner. On le fait depuis le début de cette émission. On fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre et qui va vous faire réagir, Françoise Canetti. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre transistor? Un auteur, compositeur, poète, musicien, l'anticonformiste Boris Vian qui ne mâche pas ses mots quand il s'agit de la radio. C'est en novembre 58 sur Paris Inter.
Oh, ce ne sont pas des plagiats, à vrai dire. Quand on écrit une chanson, on ne peut jamais s'empêcher d'avoir plus ou moins des réminiscences. Ce sont plutôt des petites notes burlesques que j'ai introduites au long du livre pour poser des questions qui peuvent paraître saugrenues, mais dont une, par exemple, est surgie à mon esprit pendant que je l'écrivais. Je fredonnais Parlez-moi d'amour et je me suis aperçu que Parlez-moi d'amour a une redondance près, c'était...
Le roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers.
Le grand saint Éloi lui dit, oh mon roi, votre majesté est mal culottée.
C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit.
Et ça explique peut-être le succès qu'a eu Parlez-moi d'amour.
Vous avez étudié également les moyens de diffusion de la chanson et des variétés en général, et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la radio.
Je ne suis pas du tout d'accord avec la radio. La radio devrait être soignée au même titre que l'éducation. On ne devrait pas se plier au désir de certains auditeurs qui ont mauvais goût et qui demandent de mauvaises choses. C'est ce qu'essaye de faire la radio pour se faire apprécier des auditeurs. Mais si on a la chance d'avoir une radio nationale, il faudrait au moins que cette radio soit entre les mains de gens qui évitent de faire passer des horreurs sur les ondes. On entend journellement des chansons bourrées de fautes de syntaxe et de choses de ce genre, et ensuite on dépense des milliards pour construire des écoles. Je trouve ça absolument incohérent et absurde. On ne fait pas la classe pour les cancres, on la fait pour les bons élèves.
Voilà.
Formidable.
Voilà, vous avez compris. Là, j'ai Françoise Canetti qui jubile à plusieurs titres. Alors, avant de revenir sur les propos de Boris Vian, la vraie surprise, la magie, je ne le savais pas. C'est un véritable hasard, Françoise Canetti. C'est que la voix féminine qui chante Le Roi d'Agobert.
Le bon roi d'Agobert, c'est Lucienne Vernet. Et les quatre barbus, et donc Lucienne Vernet, c'est ma mère. Voilà, donc si vous voulez, c'est une émotion formidable que vous me donnez là. Voilà.
Et donc, pour revenir sur Boris Vian, là, il mâche pas ses mots, je le disais. En gros, il va dans le sens complet de Canetti. En gros,
mais
ce qui lui plaît, mais finalement, ce qu'on donne à manger aux gens, souvent, c'est des fautes de goût, et il s'y oppose un peu.
Bah, en fait, c'est la critique du marketing.
Ouais.
C'est-à-dire, vous pensez que les gens sont comme ça, et qu'ils attendent, que le public attend de vous certaines chansons, et donc on va leur donner des chansons, on va cibler. Et il fait vraiment la critique du marketing culturel, et lui parie comme mon père. C'était des gens qui pariaient sur l'intelligence du public, et il pariait sur l'exigence. Et effectivement, quand on propose aux gens des choses intelligentes, eh bien, on fait le pari, en tout cas moi je continue à faire le pari, qu'ils vont aimer.
Alors Boris Vian n'aurait jamais chanté sans Jacques Canetti, ça aussi on le découvre, c'est Jacques Canetti qui le pousse vraiment à prendre le micro parce que Boris Vian était se disloquer sur scène tellement il avait peur. On a récemment, c'était fin juin, commémoré le 60e anniversaire de sa disparition. À la rentrée, on va fêter le centenaire de sa naissance, c'est plus positif. Vous l'avez vu débuter petite fille sur la scène des Trois Baudets, Boris Vian. Et pour cet anniversaire, vous avez confié au groupe Debout sur le Zinc, que vous évoquiez tout à l'heure, de chanter Boris Vian. Et ça donne ça.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin?
Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet?
Quand ils sont beaux,
ils sont idiots.
Quand ils sont vieux,
ils sont affreux.
Quand ils sont grands,
ils sont feignants.
Quand ils sont petits,
ils sont méchants.
Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les tifs en gardant ses pieds l'air conçus?
Écoutez bien, ne vous mariez pas les filles, c'est le titre de cette chanson. Déjà, Boris Vian avait tout compris à la vie.
Hein, 1958, et cette chanson a été chantée par Béatrice Arnac et Michel Arnaud, qui chantaient cette chanson en minaudant un petit peu.
Oui.
Et là, maintenant, c'est la première fois qu'un groupe d'hommes, un groupe de garçons, reprend cette chanson et vraiment, il dénonce l'attitude, la vulgarité de certains hommes. Et je trouve que c'est pas mal. Et que Boris Vian ait écrit ça en 1958, il y a 60 ans, c'est formidable.
Déjà avant-gardiste, son répertoire est infini. Il a fait chanter Reggiani, Mouloudji. Dans cet album qui sort à la rentrée, il y a 15 reprises par Debout sur le Zinc, ce groupe lettré et enjoué. On retrouve bien entendu Le Déserteur, qui est devenu un hymne à la paix, un texte merveilleux écrit pendant la guerre d'Indochine, qui a ce texte et cette chanson, elle a été interdite à la vente jusqu'en 62 pour le plaisir juste Boris Vian chanteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.
Et il y a même, Françoise, un inédit sur cet album.
Oui, il y en a même trois. Il y a trois inédits.
On fait des rêves. Moi, c'est la chanson qui m'a plu, vraiment.
Ça vous a plu, ça m'a aussi. Moi, j'adore cette chanson. C'est une chanson, c'est un hymne à la vie. C'est-à-dire que vraiment, Boris Vian, qui savait qu'il était malade, qui savait qu'il ne dépasserait pas l'âge de 40 ans, et qui menait des vies parallèles. C'était quelqu'un qui vivait dans l'urgence, sans jamais être pressé. C'est donc quelqu'un qui parle de la vie et du moment présent qu'il aime tellement vivre.
On fait des rêves toute la vie, la vie s'achève et on n'a rien dit. On fait des rêves toute la vie s'achève et on n'a rien dit. Il y a la tristesse, il y a les soucis, il y a les caresses et c'est fini. Il y a la tristesse, il y a les soucis, il y a les caresses et c'est fini.
On fait des rêves, ce titre et 14 supplémentaires sur cet album qui sort à la rentrée avec une tournée de Debout sur le Zinc. On va en reparler. En attendant, je ne peux que vous recommander le coffret Canetti sur Boris Vian. 100 chansons, 6 vinyles, 4 CD, une édition limitée et numérotée. C'est un très bel objet agrémenté de livrets sur tous les interprètes de ses textes. C'est aussi ça, la maison Canetti, c'est la sensation de posséder un petit bout d'histoire
avec de grandes chansons qui traversent les générations.
Et puis cette figure du poète Boris Vian, bah ça tombe bien de l'évoquer dans cette émission. Dans le Mac de l'été, on a poussé les murs pour faire une petite place à la poésie. Tous les jours dans cette émission, une grande voix de France Inter, bien connue des auditeurs, nous lit un texte.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve, effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup. Ô viens mon beau soleil, ô viens ma nuit d'Espagne, arrive dans mes yeux qui seront morts demain, arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main, mène-moi loin d'ici battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire, le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Ô viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort, arrache-toi la chair, tue, escalade, mort, mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qui fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes, traverse les couloirs, descends, marche léger, vole dans l'escalier plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Au traverse les murs, s'il le faut, marche au bord, des toits, des océans, couvre-toi de lumière, use de la menace, use de la prière, mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Vous l'avez reconnu, merci Mathieu Vidard, que vous retrouvez à la rentrée pour un nouveau rendez-vous, La Terre au carré, à 13h30 tous les jours. Mathieu, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte?
Alors j'ai choisi Sur mon cou de Jean Genet, extrait de ce long poème Le condamné à mort. Alors je l'ai choisi parce que c'est une histoire pour moi de rencontre. D'abord une rencontre avec la poésie de Genet grâce à Étienne Dao, grâce à Sur mon cou qu'il avait interprété la première fois en 1996, avant de reprendre l'intégralité du poème avec Jeanne Moreau, c'était bien plus tard en 2010. Et puis c'est la rencontre donc avec la poésie de Genet et aussi avec Hélène Martin qui a mis en musique les mots de Genet. Hélène Martin, c'est une chanteuse qui a beaucoup interprété dans les cabarets de la Rive Gauche et puis qui a mis en musique les poètes et que j'ai pu rencontrer grâce à Étienne Dao parce qu'à l'époque je faisais un feuilleton pour les ateliers de création de Radio France et donc j'avais rencontré Hélène Martin et ça a été une rencontre très importante dans ma vie. Et on est resté très proches. C'est une dame maintenant qui a un petit peu plus de 80 ans, mais qui a mis en musique Louis Aragon, Jean Giono, Pablo Neruda et Genet. Genet avait accepté justement qu'elle mette en musique avec sa guitare le condamné à mort. Il lui avait dit « Vous pouvez chanter où vous voulez et quand vous voulez le condamné à mort. Je vous donne l'autorisation. » Et elle l'a très très bien porté et Dao s'en était emparé. Donc pour moi, c'est à la fois le souvenir de la langue de Genet, extrêmement sensuelle, sexuelle, pornographique, sulfureuse. Et puis aussi cette rencontre, cette histoire d'amitié avec Hélène Martin que j'aime tendrement et qui a mis en musique ces mots de Genet.
Merci beaucoup Mathieu Vidard et bel été.
Merci à vous Leïla.
Est-ce que vous lisez de la poésie, Françoise Canetti?
Je la lis et je l'écoute. Ah. Et comme vous venez de parler de Jean Genet, je pense bien évidemment à Dao et à Jeanne Moreau. Oui. Et donc je fais le pont avec ce magnifique disque que Jeanne Moreau avait enregistré des poèmes chantés de Norge. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'adore écouter et j'aime beaucoup aussi écouter Jeanne Moreau dans Jacques Prévert.
Alors on a fait la dernière fois en début d'émission, là on va faire la prochaine fois, le prochain livre, le prochain spectacle que vous mourrez d'envie de lire, de voir.
Alors, il y a une œuvre que j'ai découverte, c'est une jeune femme qui s'appelle Lynn Papin. Mmh. Elle a écrit, elle doit avoir, je sais pas, 23 ou 20, 24 ans. Elle a écrit un livre que j'ai lu qui s'appelle les os des filles. C'est un livre absolument remarquable. Je suis jalouse de son écriture. Elle écrit divinement bien. Elle raconte l'histoire d'une grand-mère, d'une mère, d'une fille. Voilà. Et elle nous fait voyager en Asie, en Europe, à Paris. C'est remarquable. Remarquable.
Alors, on doit annoncer aussi pour Debout sur le Zinc une date. C'est le 26 septembre au 3 Baudet. Donc là, il y a un grand concert. C'est une grande fête. Et puis il y a une opération que vous menez aussi autour de Boris Vian avec le ministère de l'Éducation nationale.
Oui, alors en fait on a demandé au site Musique Prime, on a proposé, Patrick Vian et moi, on a proposé à Musique Prime qui est le site dédié à la musique du ministère de l'Éducation nationale, de mettre à la disposition des enseignants de maternelle et d'écoles primaires l'abécédaire de Boris Vian et de Lucienne Vernet. Et donc cette œuvre est disponible pour les petits-enfants de 6, 7 et 8 ans.
C'est génial. Je ne sais pas, François, si vous projetez de partir quelques jours en vacances, mais pour ceux que ça fatigue déjà à l'avance de trouver un endroit, de prendre la route, pour ceux qui travaillent aussi, ou qui n'en ont pas simplement les moyens, ma mission, c'est vous faire voyager sans bouger le petit orteil. Aujourd'hui, on va en Afrique du Sud avec la chanteuse Myriam Makeba, l'une des voix qui s'est opposée à l'apartheid, contrainte à l'exil pendant une trentaine d'années, et qui a fait le tour du monde avec une chanson, Pata Pata.
Le Mac de l'été, sur France Inter.
Sans
Myriam Makeba sur France Inter, qui a été reprise par Sylvie Vartan, ça donnait tape tape. Allez voir en ligne pour la curiosité et pour rire un petit coup. Merci Françoise Canetti d'avoir été avec nous.
Merci Léla, quelle été.
Demain, samedi à 10h, ne manquez pas notre série musicale I Love Le Grand fabriqué avec amour. Et d'ailleurs, Françoise y participe. Je passe la main le temps du week-end à Emmanuel Kérad. Et nous, on se retrouve dès lundi 18h pour de nouvelles aventures culturelles. Dans un instant, le téléphone sonne. Belle fin de journée à vous sur France Inter.